Chapitre 4. Quand Strenov apprit l'arrivée imminente du prince accompagné d'un hôte, il sentit croître terriblement l'inquiétude dont il était tourmenté depuis quelque temps. Depuis le jour surtout où il avait appris que venait d'être révoqué l'employé de la poste pour manquement à la discrétion professionnelle. Ce que sa fille et lui avaient fait était bien autre chose. Que serait donc leur punition si jamais le maître savait ? Dans son angoisse, l'intendant s'en prenait à Dounia. « Tu vois, quand je te répétais d'être prudente, de modérer tes bavardages et de retenir tes insolences à l'égard de cette jeune fille, son Altesse revient pour la voir, c'est clair comme le jour, et elle n'aura rien de plus pressé que de se plaindre à notre sujet. Alors ?» Dounia, par amour-propre, feignait de traiter à la légère les craintes paternelles. Mais elle était fort effrayée des conséquences possibles de sa méchanceté. Car enfin, si l'employé des postes, sans penser à mal, avait un jour laissé voir devant témoin sa surprise de cette correspondance si fréquente entre Ofnik et le secrétaire de son Altesse, personne n'aurait songé à en tirer des conclusions défavorables pour Lilia, aimée et respectée de tous, si les Strenov, avec une sournoise habileté, n'avaient su répandre la calomnie. Dounia, tout particulièrement, s'était distinguée à ce sujet. Un jour, en outre, croisant Lilia sur une route de la forêt, elle avait jeté une insulte à la belle jeune fille tant détestée, depuis, surtout, que s'était arrêtée sur elle l'attention du prince. Elle se disait que celui-ci, coutumier de nombreux et éphémères caprices, oublierait bientôt la pupille d'Ofnik, et qu'au reste, il devait bien peu se soucier qu'à cause de lui fût plus ou moins compromis l'honneur d'une femme. Ainsi donc, on ne risquait rien en révélant à tous que cette irréprochable, cette sainte Lilia Verine, n'avait pas plus que d'autres su résister au prince de Wittengratz. Mais la punition infligée à l'employé des postes venait de révéler que le prince ne voulait pas de bavardage au sujet de ses rapports avec Lilia. Du coup, la quiétude de Dounia s'effondrait. Et voilà que l'annonce du retour de leur maître prouvait clairement à l'intendant et à sa fille que Lilia était toujours en faveur et qu'ils avaient commis la plus abominable gaffe en s'attaquant à elle. Aussi, Strenov avait-il peine à réprimer un tremblement d'angoisse quand, plus humble, plus courbé que jamais, il s'avança pour saluer le prince à son arrivée. Vladimir était accompagné du colonel Korf, en civil comme lui. Derrière eux bondit le corps souple d'Yamil. Instinctivement, Strenov recula de quelques pas, ce qui eut pour résultat d'attirer l'attention du chien. Celui-ci s'aplatit sur le sol en grondant. L'intendant, blême d'effroi, recula encore. Le prince eut un sourire de raillerie méprisante, tandis que son regard dur s'abaissait vers l'homme apeuré. Il t'a décidément en horreur. C'est mauvais signe, cela. Voilà un être qui est une des bêtes noires d'Yamil, Platon Kirillovitch. Mademoiselle Nadopoulo en était une autre, vous vous souvenez ? Le colonel Korf, à qui s'adressait la remarque, répondit en souriant. « Oui, Altesse, je me souviens parfaitement. Les animaux ont de ces antipathies inexpliquées. Mais votre Altesse ne craint-elle pas qu'Yamil saute sur cet homme ?»« Bah, s'il lui prend un morceau de son individu, le malheur ne sera pas grand. » Avec un dédaigneux mouvement d'épaule, Vladimir gravit les quelques marches menant au vestibule, tandis qu'Yamil, renonçant momentanément à goûter du Strenov, se redressait pour suivre son maître. Une demi-heure plus tard, Vladimir quittait le château et prenait le chemin de la maison forestière. Lilia, qui l'avait vu venir de la fenêtre, lui ouvrit et tomba dans ses bras. « Volodia, que c'est bon à toi d'arriver si vite !»« Tu sais bien que je n'avais que ce désir depuis le jour où je t'ai quitté. » Il baisait le visage rougissant, les cheveux blonds aux reflets fauves. Mais dès le premier coup d'œil, il remarquait la physionomie amaigrie, fatiguée, le cerne sous les yeux qui le regardaient avec une joie radieuse. « Je suis si heureuse, Volodia. Te voilà. Maintenant, il me semble que je revis. La mort de ma pauvre Irina a été un coup si dur. »« Ma bien-aimée, tu as passé par de pénibles moments. » Pendant ce temps, là-bas, je m'impatientais d'être loin de toi. Mais tout cela est fini. Viens que je te dise mes projets. » Il emmena dans la petite salle, à leur place habituelle, et s'assit près d'elle. Sa main, en un geste caressant, inclina la tête charmante sur son épaule. « Écoute, ma colombe, ce que j'ai décidé. » En l'entendant parler de mariage secret, Lilia s'effara un peu. Comment, tout de suite, et sans que personne le sût? Mais ce n'était pas possible. « Très possible, je t'assure, et en outre indispensable. Songe donc que tu ne peux vivre seule, ici, avec cet homme âgé susceptible de tomber malade, ou même de finir subitement comme Irina. En outre, ta santé, de l'avis du médecin, demande un autre climat. Dois-je ajouter que je suis très impatient d'avoir ma Lilia tout à moi, de lui assurer mon entière protection et de l'entourer de tous les soins, de tout le bonheur possible ?» Les beaux yeux émus se baissèrent un instant sous l'ardent regard d'amour. Lilia dit d'une voix basse et tremblante « Je ferai ce que tu voudras. J'ai confiance en toi. » De nouveau, ses yeux se levaient sur Vladimir et il y lut, une fois de plus, cette confiance tendre, profonde. Il y vit l'abandon candide de cet enfant à l'âme très pure qu'il aimait. Il le comprenait bien, jusqu'à lui faire tous les sacrifices, hors celui de sa conscience, de sa dignité, de sa vertu, au contraire de tant d'autres. Avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler, il baisa les paupières frémissantes. « Oui, et confiance en moi, ma fiancée, bientôt ma femme. Tu n'auras pas à t'en repentir, je te l'affirme. » Il la contemplait avec ravissement. Quelle merveille elle était, sa Lilia! Plus touchante encore, avec ce visage un peu aminci et les yeux soulignés de ce léger cerne bleuâtre. Il retrouvait son sourire, la chaude lumière de son regard et cette simplicité charmante, cette tendresse ingénue qui lui faisait penser parfois « Je serais un monstre si jamais je trompais la confiance de cet enfant. » Maintenant qu'il l'avait revue, il comprenait plus que jamais la nécessité de mettre un terme à la situation délicate qui était la leur, du fait de l'isolement où se trouvait la jeune fille et de la protection qu'elle devait chercher uniquement en lui. Tout s'accordait pour les amener à cette union secrète dont les inconvénients, quels qu'ils fussent, seraient moins graves que ceux de plus longues fiançailles. Vladimir fit part à Lilia des mesures prises pour ce mariage et pour leur future installation. Tout à l'heure, il verrait le curé de Vrodno pour s'entendre avec lui au sujet de la bénédiction nuptiale. Lilia objecta. « Il ne voudra peut-être pas nous marier comme cela. » Vladimir sourit de l'air d'un homme amusé par une réflexion naïve. « Et pourquoi donc, petite colombe, le mariage secret n'est pas défendu quand il est motivé par des raisons sérieuses. Or, le nôtre rentre dans cette catégorie. D'ailleurs, du moment où je le veux... » Et Lilia revit sur la physionomie de son fiancé l'air de volonté altière qu'elle avait remarqué chez lui quand il s'adressait à Ofnik et qu'il inquiétait un peu, comme le signe d'une nature autocratique accoutumée de voir tout plier devant elle. Oui, elle avait oublié que le titulaire de la petite paroisse dépendait du prince de Wittengratz et que devant celui-ci, toutes les difficultés, s'il en existait, devaient s'aplanir. Répondant aux questions de la jeune fille, Vladimir lui parla de son père, de la comtesse Seminkov. Il dépeignit celle-ci sous de si noires couleurs que Lilia s'écria « Il doit être bien malheureux, ce pauvre père, avec une femme pareille. Tu dis qu'il paraît triste, Volodia ?»« Oui, triste, lassé, vieilli avant l'âge. J'ai su que sa fortune était complètement dilapidée par ses deux créatures, la mère et la fille. » Son domaine de Tchevorik est hypothéqué, sa demeure de Pétersbourg aussi. Bref, il est ruiné. Pauvre, pauvre père, quel sort pour lui si tu ne réussis pas à lui rouvrir les yeux au sujet de ses femmes. J'y parviendrai, ne crains rien. Il peut même se produire quelque événement qui me permette de lui révéler plus tôt qu'on ne pense ton existence. Mais je voudrais retrouver ce jardinier de Tchevorik, cet Ivan... Jusqu'ici, les recherches n'ont donné aucun résultat. Cependant, Il est maintenant le seul témoin, puisque Irina est morte. Mais là aussi, je compte qu'avec de la patience, nous arriverons à découvrir l'individu. Quant à mon siège du comte Semenkov, je le reprendrai aussitôt après notre retour à Pétersbourg. Jusque-là, chérie, nous ne nous occuperons que de ta santé et de notre bonheur. » À ce moment, la porte s'ouvrit et Ofnik parut sur le seuil. Il s'immobilisa en portant la main à son bonnet. « Votre Altesse, pardon, je ne savais pas. » « Entre, Ofnik, je vais te faire connaître la décision que nous venons de prendre. » Le vieillard avança tout en glissant un coup d'œil attristé vers la jeune fille qui, en relevant son visage appuyé contre l'épaule de son fiancé, souriait au fidèle serviteur. Pauvre petite, pourvu qu'elle ne payât pas trop cher ses heures de bonheur. En écoutant la communication du prince, Ofnik eut peine à dissimuler son émotion et ses craintes. Une union secrète, ne fallait-il pas voir là un moyen imaginé par lui pour délaisser plus facilement Lilia quand serait passé son caprice? Tout, pour le vieux garde, était objet de défiance dans cette extraordinaire aventure qui avait fait de la jeune fille confiée à ses soins la fiancée du prince de Wittengrass. Mais que pouvait-il pour conjurer le malheur dont il la voyait menacée? La protection qu'il étendait sur elle jusqu'à ces derniers temps devenait complètement illusoire depuis que le prince était apparu et, dédaigneusement, avait écarté le vieux gêneur. Pourtant, cette fois, le garde osa essayer quelques objections. Mais un froncement de sourcils, un froid regard de surprise l'arrêtèrent net. Le prince dit sèchement « Tout est entendu entre Lilia Andreïevna et moi. Tu n'auras à t'occuper de rien pour la cérémonie qui aura lieu très probablement demain soir. » Se tournant vers sa fiancée, il ajouta « Demain, dans l'après-midi, je te présenterai mes témoins, Lilia. Maintenant, il faut que je te quitte, car j'ai fait dire au curé de Vronno de venir me parler tout à l'heure. » Il se leva, prit les mains de la jeune fille pour y appuyer ses lèvres. « Je reviendrai aussitôt que j'aurai tout réglé. À bientôt, ma chère Lilia. Tu as déjà meilleure mine depuis que je suis là. Qu'en dis-tu, Ofnik ?» De fait, le teint délicat restait d'un rose léger, les cernes semblaient s'effacer sous la lumière des yeux éclairés par la joie profonde qui faisait battre plus vite le cœur de Lilia. Ofnik répondit d'un ton contraint « Oui, c'est vrai, votre Altesse, c'est très vrai. » Le prince lui jeta un coup d'œil ironique et amusé, puis il se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, il se détourna légèrement pour ordonner « « Viens avec moi, Nicolas Stepanovitch, j'ai à te parler. » Ofnik obéit. Pendant quelques instants, il marcha respectueusement derrière son maître. Puis, sur un signe de lui, il s'approcha. Vladimir demanda « As-tu découvert quelque chose au sujet de ces bruits calomnieux dont tu m'as parlé dans tes lettres ?»« De certitude absolue, je n'en ai pas, votre Altesse. Ces bruits, ça sort d'on ne sait où. Mais enfin, j'en suis à peu près sûr que les premiers auteurs en sont... » Le garde s'interrompit, hésitant. « Eh bien, je crains toujours de faire tort. » Le prince leva les épaules avec impatience. « Garde tes scrupules pour une autre occasion. D'ailleurs, le nom que tu vas prononcer est probablement le même que celui sur lequel se sont portés mes soupçons, c'est-à-dire Strenov. » Oui, Strenov, et surtout sa fille. » « Tu m'as dit qu'elle avait insulté Lilia Andreïevna. De quelle manière ?»« En la rencontrant un jour sur une route de ta forêt, elle lui a crié avec insolence. « Hé, la belle hypocrite, vous n'avez plus de prince pour venir vous tenir compagnie. » La pauvre enfant est rentrée toute bouleversée, car elle avait trop bien compris, à l'air et à l'accent de cette vilaine créature, que celle-ci avait voulu lui jeter une injure. Mais elle a refusé de l'écrire à votre Altesse, comme le lui conseillait Irina, tout à fait furieuse. Irina avait raison, mais pour être différé, le châtiment ne sera pas moins exemplaire. Ofnik frissonna, pourvu que jamais le prince ne regarda sa femme avec l'expression qu'il avait en ce moment. Donc Strenov et sa fille sont les premiers auteurs de ces bruits calomnieux. Y en a-t-il d'autres ? Je l'ignore, votre Altesse. Naturellement, on a bavardé là-dessus dans le pays en répétant les méchancetés de ces deux mauvais êtres. Mais je crois que ceux-ci doivent avoir seuls la responsabilité. Il est vrai qu'ils ont peut-être agi plutôt par étourderie que par malveillance. Les apparences prétendent à... » Vladimir l'interrompit d'un ton sec. « Que me racontes-tu là ? Certainement, tu n'en penses pas un mot, car je te crois très persuadé que le père et la fille ont agi avec préméditation, lui pour satisfaire sa mauvaise nature, fourbe et envieuse, elle par féroce jalousie. Quant à moi, je n'en doute pas le moins du monde. Au reste, je punirai l'étourderie même du moment où elle aurait pu nuire à celle qui sera la princesse de Wittengrass. Répète donc maintenant ce que le médecin a dit pour sa santé. » Qu'il n'y a rien de grave, mais qu'il lui fallait des soins, un climat plus doux, beaucoup de tranquillité morale, car c'est une nature très sensible. La voix du vieillard trembla un peu à ces derniers mots. « Bien !» Un geste indiqua au garde qu'il pouvait se retirer. Mais comme il faisait un pas en arrière, le prince le regarda en se mettant à rire. « Quelle peur as-tu de moi pour elle, mon pauvre Ofnik ? Déjà, j'en suis sûr, tu la vois la plus malheureuse des femmes. » Comme Ofnik, surpris, embarrassé, restait sans parole, Vladimir ajouta « Parle en toute franchise, je te le permets. » « Eh bien oui, votre Altesse, oui, j'ai peur. Il y a tant de différences. Et puis, enfin, je ne sais comment t'expliquer. La petite Barina est si confiante, elle souffrirait tant si... si votre Altesse devait changer à son égard. » Vladimir sourit en mettant sa main sur l'épaule du vieillard. « Ne crains rien, je ne changerai pas. Quant à toi, je te pardonne, tout en reconnaissant que tu as bien rempli ton devoir. » Là-dessus, il s'éloigna, laissant Ofnik abasourdi. En rentrant chez lui, Vladimir, au passage, adressa quelques mots au colonel Korff, qui fumait tout en parcourant des journaux, puis il gagna le salon aux tentures rouges qui lui avait servi de cabinet de travail pendant son précédent séjour à Sanitsa. Jorel, appelé par un coup de timbre, apparut presque aussitôt. « Eh bien, qu'as-tu fait ?»« Comme me l'avait ordonné votre Altesse, j'ai guetté la jeune personne et je l'ai vue se glisser entre les arbres pour épier votre Altesse. Alors, étant bien sûr de mon fait, je me suis dressé devant elle en disant « « Trop curieuse, la belle, son Altesse n'aime pas cela. » Revenue de son premier saisissement, elle a essayé de nier. Mais sans l'écouter, je l'ai ramenée ici. « Bien, envoie chercher son père et amène-les-moi tous les deux. » Quelques instants plus tard, l'intendant et Dounia, introduits par le valet de chambre, se trouvaient en présence du prince qui, accoudé à son bureau, attachait un regard d'implacable dureté sur ces deux êtres blêmes, tremblants, dont les yeux n'osaient se lever sur le maître redouté. Yamil gronda. La main de Vladimir, posée sur la tête du chien assis contre son fauteuil, arrêta d'une légère pression l'animal prêt à s'élancer. « Eh bien, Strejnov, et toi, Dounia Petrovna, vous avez donc oublié que les gens à mon service doivent être sourds, muets et aveugles ?» L'intendant dit, la voix étranglée, « Je ne sais ce que nous reproche votre Altesse. »« Tu le sais parfaitement, misérable hypocrite, pas plus que ta fille n'ignore pourquoi elle est là. C'était d'un bel aplomb, Dounia Petrovna, d'oser m'espionner ainsi. » Maintenant, le visage de Dounia était rouge et brûlant. Elle bégaya. « Je n'ai pas espionné, votre Altesse. C'est une erreur. » Elle se tut en frissonnant sous le regard d'indignation méprisante. Sans même paraître l'avoir entendu, le prince reprit en s'adressant à Strejnov. « Quant à toi, il s'agit d'autre chose encore. J'ai fait faire une enquête au sujet de l'administration du domaine et tes comptes ont été soigneusement revus. Il en résulte que tu m'as volé, ce qui va te mener loin, tu peux m'en croire. » Avec la recommandation particulière que je leur ferai à ton sujet, les juges te soigneront de façon toute spéciale. En outre, j'expulse ta famille de mes terres avec interdiction d'y jamais rentrer. » Strejnov, dont le teint blême tournait au verdâtre, balbutia « Pardon, votre Altesse, ayez pitié !» Dounia, imitant son père, tendit vers le prince des mains implorantes.
« Oui, pitié, pitié, je ne savais pas, je... »
« Pas de comédie. Retirez-vous et prenez garde que je n'ai plus à me plaindre d'aucun d'entre vous, car je vous infligerai de plus durs châtiments encore. Pour toi en particulier, Dounia, je me souviendrai de la façon dont les seigneurs de Sanitza punissaient autrefois les serves coupables. » Dounia eut un long frisson, comme si elle sentait déjà sur ses épaules le contact des verges dont la menaçait le maître. Elle savait bien que le prince de Wittengrass, en dépit de l'oukase impériale abolissant le servage, faisait encore infliger parfois des châtiments corporels à ceux qui dépendaient de lui. Et il suffisait de voir sa physionomie en ce moment pour comprendre qu'aucune pitié ne se pouvait attendre de sa part. À Jorel, demeuré au seuil de la porte, Vladimir ordonna. « Fais sortir ces gens et confie le père à Ifnek pour qu'il le garde de près jusqu'à ce que je le fasse remettre aux mains de la police. » Puis envoie-moi Ivan Seminitch. Je veux le charger de veiller à ce que la fille et le reste de la famille aient quitté demain Sanitza. » Setnov et Dounia, avec des regards de bêtes vaincues, se relevèrent en chancelant sur leurs jambes flageolantes. Le père, surtout, n'était plus qu'une loque. Dounia, elle, tout en tremblant de terreur, songeait avec une rage haineuse. « Oh, me venger un jour de cette Lilia pour qui le maître vienne nous jeter à la misère, à la honte !»